Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue à Cinérama, une émission aujourd'hui qui va faire le grand écart. Grand écart avec deux interviews, avec à chaque fois un duo ou un tandem. Nous allons entendre Nina Faure et Pierre Carl pour On revient de loin. Et puis toi Marine, tu as rencontré deux autres personnages bien connus.
Oui, c'est-à-dire les auteurs du Palma Show, David Marseille et Grégoire Ludy, qui font leur premier film, La folle histoire de Max et Léon. Et le grand écart, comme tu le disais, eh bien, en effet, puisque le second film dont je vais vous parler, ce sera Réparer les vivants de Catalina Kileveri, donc pas vraiment une comédie, plutôt un drame, mais un bon drame.
Et puis donc, après avoir parlé bien du documentaire de Pierre Carl, On revient de loin, il sera aussi question d'un autre film, Willy Premier, quelque chose d'assez surprenant. Là, c'est réalisé par quatre réalisateurs, ils s'y sont mis à quatre. Et puis, alors, il y en a un qui s'y est mis tout seul, c'est Oliver Stone, avec le film Snowden. Et ça nous fait un petit lien, finalement. Snowden, ce sont les écoutes autour de la NSA, donc qui concernent les Américains. Et puis, On revient de loin, de Pierre Carl et Nina Faure. Eh bien, on parle du président équatorien qui, lui, a accueilli Julian Assange dans l'ambassade londonienne. Donc, ça fait un petit lien avec Wikileaks, avec deux grosses affaires donc, qui ont secoué la politique étrangère.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Le jeune Edward Snowden est un brillant analyste informaticien. Il a une obsession, servir son pays. Alors le mieux est peut-être d'entrer dans l'armée. Mais comme le parcours du combattant pourrait le casser en deux, on lui propose d'abord la CIA, puis la NSA, l'Agence Nationale de la Sécurité. Alors on peut rêver pire, un poste pour débuter une carrière qui est prometteuse, puisque Snowden est reconnu par ses supérieurs comme un élément brillant, vraiment, mais vraiment au-dessus du lot. À partir du moment où les États-Unis sont plus tourmentés par une cyberattaque des Chinois que par une attaque à la bombe, on comprend l'importance du recrutement des balèzes en informatique. Mais ce que découvre Snowden à l'intérieur du service de renseignement américain ne le stimule pas. Il n'est pas comme ses petits camarades qui font le job sans se poser de questions. Il va donc révéler les secrets mal gardés.
Et tu fais quoi déjà, tu m'as dit ?
Je bosse comme analyste au département d'État.
Sois pas timide !
Pourquoi voulez-vous intégrer la CIA ?
Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste.
Tu pourrais en dire plus ?
Et non, comme tu le sais.
Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet.
T'es prêt à passer à l'action ?
Celui-là a l'air croustillant.
Attends, comment c'est possible ?
Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut.
Oui, mais on vise qui ? Je comprends pas.
Tout le royaume, Blanche-Neige.
La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde.
Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité.
Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé un marché. Ils vont s'en prendre à moi. Et ils vont s'en prendre aussi à vous.
Une bande-annonce qui résume plutôt bien ce qui se passe dans ce film. Alors, en révélant comment les États-Unis espionnent quiconque possède un numéro de téléphone ou un email, eh bien Snowden devient la source d'un conflit politique international. Un documentaire aurait été aussi instructif, hein, mais les Américains aiment les biopics comme les thrillers politiques et l'histoire pour les nuls est un des thèmes favoris d'Hollywood. Et il est vrai que les Américains ne tardent pas trop à examiner leur politique internationale et leur histoire et à en faire une critique. Et nous sommes en plein dedans avec un Oliver Stone qui ne ménage pas ses effets. On peut lui accorder qu'il a le mérite de mettre à plat l'histoire de Snowden, de bien décomposer les différents éléments du puzzle. Alors tout d'abord les faits, hein, l'intrusion de la NSA dans la vie privée de millions de gens, y compris nos dirigeants politiques. On se souvient qu'Angela Merkel ou les présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac ont été écoutés par les Américains. Ensuite, Oliver Stone insiste sur le mécanisme de la révélation. C'est par la presse, deux journalistes du Guardian et du Washington Post, que les révélations apparaissent aux yeux du grand public. Mais avant de publier, eh bien, il y a le jeu des vérifications, des faits qu'on dénonce, mais aussi les indispensables vérifications juridiques afin de savoir ce que le journal risque finalement à balancer ainsi les preuves que les opérateurs téléphoniques ouvrent grand les vannes des communications passées par leurs abonnés. Alors ces enjeux, ils sont particulièrement bien décrits. Le réalisateur passe vite sur la traque du traître à la nation et son départ pour Moscou et insiste davantage alors sur sa relation amoureuse. Snowden, c'est aussi une histoire d'amour entre un jeune homme, agent des services secrets, et une jeune femme. Un équilibre qu'on perçoit indispensable. Mais ici, comme dans les domaines du renseignement, Oliver Stone n'est pas très subtil et la mise en scène se contente de surligner les moments de doute comme les moments d'euphorie. La musique est particulièrement omniprésente, comme si Oliver Stone n'avait pas confiance en son sujet. Alors certes, c'est un peu technique parfois, mais aisément compréhensible, pas la peine de surjouer l'angoisse, le drame ou le suspense. J'avoue que je n'apprécie pas beaucoup les films d'Oliver Stone. J'ai en horreur son tueur-né dénonçant la violence en s'en gargarisant. Toutefois, Snowden a l'avantage de raconter, alors peut-être pour certains spectateurs qui l'ignorent ou qui l'ont oublié, combien les moyens numériques mis à notre portée ne sont pas seulement des outils de liberté, mais également des moyens de contrôle. Alors, dans le dossier de presse, c'est assez intéressant, on apprend que Stone s'est inspiré de plusieurs films. Il cite notamment Z de Costa Gavras. Il faut bien admettre qu'il en est très loin en termes de récit que de mise en scène. Et puis, le cinéaste s'est également imprégné, dit-il, de 1984 de George Orwell. Mais là, alors c'est une vue de l'esprit, hein. Snowden est quand même beaucoup trop clinquant pour être comparé à ce succès de la littérature mondiale. Snowden, dernier film de Oliver Stone, alors qu'avec Joseph Gordon-Levitt qui fait l'essentiel, incarnant...
il est bien lui, il est bien.
Et puis Shailene Woodley, qu'on a déjà vu dans Divergente, qui, moi j'avoue que je n'apprécie pas tant que ça cette actrice, mais bon, voilà, elle fait aussi le job, comme disent les Américains. Snowden sort le 1er novembre sur les écrans.
Et maintenant,
Cinérama.
Tout est parfaitement en ordre.
On passe à beaucoup plus drôle, la folle histoire de Max et Léon. Alors Max et Léon sont deux joyeux de riz dans la France de 1939, dont les principales occupations restent d'éviter tout effort à n'importe quel prix, d'aller manger du saucisson au troquet du coin et surtout d'aller picoler le plus possible. Malheureusement, la guerre arrive et ils se retrouvent enrôlés dans l'armée. De fil en aiguille et de coïncidence en hasard, les deux amis vont se faire passer pour Allemands et se retrouver dans des aventures toujours plus incongrues. Alors la folle histoire de Max et Léon, c'est le premier film des deux auteurs du Palma Show, David Marseille et Grégoire Ludig, le Palma Show étant une chaîne YouTube de sketchs majoritairement parodiques qui cumule quand même aujourd'hui plusieurs dizaines de millions de vues. Aidé à la mise en scène par Jonathan Barré, le trio est resté intact pour réaliser ce premier film dans lequel on va retrouver notamment Dominique Pinon, Monsieur Poulpe, Nicolas Marié et même Christophe Lambert qui en une seule apparition vous mettra très mal à l'aise. On va écouter un petit bout d'interview justement de David Marseille et Grégoire Ludig qui nous expliquent comment ils ont un petit peu conçu ce film.
On l'a écrit, on a mis 2 ans et demi à l'écrire. On a pris le temps même avant, c'est-à-dire de trouver la bonne idée, comme on fait des sketchs depuis 2010 à la télé. On avait vraiment envie de laisser mûrir une idée et de pas partir sur une idée comme ça, possible de faire un premier film un peu à l'arrache. On avait vraiment envie de bosser cette idée avec Jonathan qui est notre réalisateur, Jonathan Barré. Et tous les trois, on travaille, c'est vraiment un travail en triangle. Et on est content de ce projet.
Hey, qu'est-ce qui se passe?
La guerre est déclarée!
Obligé d'être pour la France?
Non,
dans quelques jours, on sera tous en enfer, les gars.
On a tendance, dans les comédies, je trouve, à prendre un peu les spectateurs pour des abrutis. Et je pense que là, les gens sont quand même assez intelligents pour comprendre que c'est du millième degré. On a juste retranscrit à notre manière l'esprit et l'absurdité qu'il y avait à l'époque.
Nous, en fait, notre manière de faire, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de dénoncer quoi que ce soit, c'est toujours une question de fond et de forme, on fait juste des constats. On ne dit pas aux gens, vous devez réfléchir comme ça, tiens, regarde, on pointe quelque chose du doigt et on laisse les gens après faire leur truc.
Oh là là, je ne vois rien, je suis dans le noir. J'ai bien peur que ma vue m'empêche de me battre. Oh, le morceau!
Donc la vue, c'est bon.
Écoutez-moi bien, les tirs au flanc. À moins d'avoir un handicap physique, vous partez.
Moi, j'ai qu'une couille.
En écrivant, en fait, avec David, on a d'abord écrit un scénario hyper sérieux. C'est-à-dire qu'on a d'abord écrit la trame, on a écrit les personnages, on a écrit l'évolution, on a écrit les moments avec Célestin, on a écrit le personnage de Célestin.
Les motivations, tout ça.
Tout ce que chaque Français voulait, à quel moment, etc. Et puis surtout aussi, il ne faut pas oublier que c'est l'évolution de ces deux gars aussi. C'est la traversée. Donc on a écrit toute l'épopée de Max et Léon.
Et ensuite, une fois que tout était terminé, on s'est dit, bon, bah là, à quel moment là, on va injecter ça, là, on peut faire cette blague-là, là, on peut tourner ce truc en dérision comme ça, là, on peut mettre la comédie musicale ici, là, on peut faire ça, et là, on peut détourner tout. Et voilà, je crois que c'est... Puis après, c'est... Je pense que Bernard sait ça et que tout le monde est un peu d'accord avec ça, c'est que ça vient un peu de l'imagination, de ce qu'on a envie de dire, de la façon dont on a envie de traiter un sujet, quelle blague on a envie de mettre. Et puis voilà, ça vient un peu tout seul.
Allez, où ça va pas ?
Nous avons affaire à des professionnels qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection.
Ils connaissent pas, ils savent pas. C'est eux, c'est leur vie, c'est eux, c'est aller draguer des filles et boire des coups à la guinguette et profiter du soleil, à rien faire.
Ils sont jamais sortis de chez eux, ils ont peur en fait de ce qui est à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est des gars qui sont pas engagés politiquement, qui sont pas engagés en écos, le communautarisme, ils savent pas trop ce que c'est, ça leur passe dessus. Mais à la fin, c'est des gars humains qui ne sont pas dans le calcul en fait, qui ont juste envie de vivre. Et voilà.
Commando à eux tout seuls, des cracks.
Enlevez les francs!
En même temps, ils sont très forts. Hein. Nous, on n'a rien vu venir.
C'est à la fois un voyage initiatique, mais en même temps, ils apprennent beaucoup de choses. Ils rencontrent des gens, ils sortent de chez eux, et finalement, les a priori qu'ils pouvaient avoir s'effacent, même si, bon, ils gardent quand même leur travers à la fin, quoi.
Allez, on y va !
On y va.
Bon, alors, impression un peu mitigée hein, pour ce premier long métrage. Ambitieux, certes, mais pas tout à fait réussi à mon sens. Les deux humoristes convoquent aussi bien l'esprit des Monty Python que celui des Nuls ou de KDO. Pétris d'influences multiples et pleins d'enthousiasme, ils rendent hommage à tout ce que le cinéma a connu de comique. Malheureusement, bah, cela ne suffit pas pour réussir une comédie, surtout sur une heure et demie. Le réalisateur Jonathan Barré, qui s'avère d'ailleurs pas si barré que ça, hein, malheureusement, a assuré s'être inspiré de Astérix Mission Cléopâtre pour son côté film de potes et son humour absurde. Mais la folle histoire de Max et Léon est bien loin du film de Chabat. Film de potes, il l'est assurément, hein, puisqu'on a le plaisir de voir apparaître tout ce que la France compte d'humoristes, mais c'est quand même loin d'être suffisant. Alors l'idée de faire de ces deux anti-héros des sortes de Forrest Gump, qui traversent l'histoire en réussissant tout, mais sans le faire exprès et sans rien y comprendre, c'était plutôt une bonne idée. S'inspirer des vieilles comédies franchouillardes, telles que La 7ème Compagnie ou La Grande Vadrouille, c'était plutôt courageux au regard de la tranche d'âge qui constitue leur public, surtout. Mais l'ensemble est quand même loin d'être une réussite. Et puis surtout, c'est pas hilarant. Alors oui, c'est surtout la France des années 40 qui est tournée en dérision, c'est-à-dire la milice, les collabos. En même temps, on se moquait de cette partie des Français en 2016. Est-ce vraiment de la dénonciation ? Est-ce vraiment subversif ? Pas vraiment. Alors c'est plein de blagues racistes, hein. Normal, c'est une comédie française. Si on savait faire de l'humour autrement, ça saurait. Et tout cela sous couvert d'ambiance vintage. Le souci, c'est que Max et Léon, ce n'est pas OSS 117. Hein. Même si on ressent l'envie de s'en approcher. Le film a quand même de grosses lacunes de rythme et puis surtout eh bien voilà, on trouve dans ce défaut majeur une preuve supplémentaire eh bien qu'il est très difficile de passer du sketch au long métrage. On écoute à nouveau les deux auteurs du Palmachot.
Pour l'écriture, c'est simple. En fait, avec David, on se connaît avant même d'avoir commencé à vouloir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on était amis avant ça. On s'est rencontrés à l'époque du collège-lycée. David était très pote, enfin il est toujours très pote avec mon frère Charles. Charles qui fait toute la musique du film. Et toutes les musiques de nos sketchs. Et en fait, bah à force de voir David être avec Charles, moi j'étais avec eux et on discutait et on s'est rendu compte avec David qu'on avait les mêmes influences, on aimait les mêmes films, on aimait le même humour et puis on était un peu motivés tous les deux à écrire, à se mettre un peu en scène et à partir de là on a commencé à écrire des sketchs. Pour nous, en fait, pas de contrat, rien, pas de demande, que dalle. C'est vraiment des trucs qui nous faisaient marrer, qu'on tournait même pas. Je me rappelle qu'on écrivait des sketchs, qu'on ne tournait pas. Et puis après, on a commencé à tourner avec la caméra du père de David les après-midi, les week-ends et tout. Et en fait, on s'est jamais arrêté. Et quelques années plus tard, on a rencontré Jonathan. Jonathan qui, lui, savait mettre en scène, contrairement à nous. Et lui cherchait des comédiens, il cherchait des choses à faire, il cherchait des projets. Et ben nous, on lui en a apporté parce qu'on avait des choses, on avait des choses écrites. Et lui était demandeur de ça, et au final, on s'est retrouvés tous les trois. Et voilà, et ça fait une dizaine d'années qu'on bosse tous les trois et qu'on s'arrête pas.
Voilà, tu l'as vu aussi
Oui, mais j'ai pas grand-chose à en dire, à part effectivement que ça ressemble à une suite de sketchs, et que...
Voilà, mais qui sont pas très bien liés entre eux, en fait.
Pas forcément, il y en a qui sont très bons, en revanche, c'est un peu la loterie. Et puis, bah oui, c'est un peu ce que j'ai à dire, mais je suis assez d'accord avec toi sur l'humour aussi, enfin qui parfois tombe à plat, mais comme il le dit, c'est au millième degré, et voilà, il faut pas non plus...
Et le film, donc, sort le 1er novembre.
Et on passe à... Pierre Carl et Nina Faure pour On revient de loin.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Des manifestants qui réclament la suppression d'un impôt sur l'héritage qui en ferait l'un des plus lourds prélèvements au monde, 77,5%. D'autres qui réclament de pouvoir continuer à utiliser du gaz et pas des plaques vitrocéramiques subventionnées par le gouvernement. En posant leur caméra en Équateur, Pierre Carl et Nina Faure ne s'attendaient pas forcément à trouver de telles actions. Partis chercher des perspectives politiques pour notre pays, une expérience nouvelle à ramener en Europe, celle du président Rafael Correa. Le tandem s'est partagé la tâche. Alors un coup, nous voyons Pierre Carl, figure connue, qui s'est toujours mise en scène dans ses documentaires. Et puis nous voyons également Nina Faure, jeune journaliste. Dans le premier épisode de cette opération Correa, sous-titré « Les ânes ont soif », sorti en avril 2015, Pierre Carl et son équipe s'interrogeaient sur les raisons de l'absence de relais médiatique en France du président équatorien. Quand il se rend dans notre pays en visite officielle et qu'il propose des solutions innovantes à la crise économique, sociale et environnementale, eh bien, quasiment aucun média ne tend un micro ou n'allume une caméra. Alors, dans ce deuxième épisode, il s'agit donc d'aller sur le terrain, voir comment les choses se passent en Équateur, petit pays d'un peu plus de 15 millions d'habitants. On y croise le charismatique président Correa, ses jeunes ministres et conseillers, des hommes et femmes favorables ou non au président. Rythmé par ses nombreuses rencontres, On revient de loin nous emmène donc dans un pays qui a subi des transformations. Aux spectateurs d'en mesurer la pertinence et l'importance. Nous avons rencontré Nina Faure et Pierre Carl. On prend le temps de les écouter.
Bonjour l'ambassade d'Équateur. Je vous appelle pour savoir s'il faut un visa pour se rendre en Équateur depuis la France. Plutôt politique que commercial. C'est-à-dire, c'est pour ramener des idées pour ici, pour notre pays, papa. Vous voyez ?
Quand on regarde votre documentaire, on voit un documentaire qui se fait. Parce que vous vous mettez en scène.
C'est vrai que sur ce film-là, particulièrement, on n'est pas parti avec un plan très défini. On n'avait pas d'idée de ce qu'on voulait aller chercher absolument. Nous, on cherchait une idée, on cherchait des perspectives politiques, on cherchait peut-être des expériences nouvelles à ramener en Europe, mais pas à illustrer un propos. Donc on est arrivé avec un chemin assez libre et finalement, on a documenté ces passages-là où nous, même en tant qu'équipe, on s'interroge, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. On découvre ce qu'est la révolution citoyenne de Rafael Correa. On découvre le parcours qu'a fait l'Équateur en tournant le dos au libéralisme, et on découvre aussi des points de la politique qui nous enthousiasment moins, voire qui nous questionnent, et du coup on a voulu raconter tout ce trajet-là.
Ce qui est peut-être original dans le film, c'est que le spectateur prend conscience de nos a priori de départ. Il voit quels sont nos a priori de départ, mais le travail qui est le nôtre, c'est justement d'aller sur le terrain, de rencontrer des gens, de revenir éventuellement sur nos a priori de départ, d'affiner, de creuser, de rendre compte de la complexité des choses. Et comme le disait Nina, tout ce chemin, il n'a pas été gommé, il reste présent. Voilà un peu ce qu'on a fait. On a restitué au spectateur le trajet qui a été le nôtre, le parcours qui a été le nôtre, qui n'est pas tout à fait le même d'ailleurs.
Eso es lo que está en juego. Esas dos visiones, el país del pasado, del neoliberalismo, o el país de la revolución ciudadana, con justicia social.
Vous, Pierre Carl, on a l'impression que... Alors c'est un moment, en plus, vous êtes en France, si mes souvenirs sont bons. Vous êtes en France et on a l'impression que vous ne pensez pas que le modèle présenté par le président équatorien... Puis c'est un mauvais modèle. Et vous, Nina, on a l'impression que vous êtes un peu celle qui va fouiller, qui va se poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu garder pour le besoin du documentaire, ou est-ce que c'est quelque chose que vraiment vous avez vécu ?
Il faut quand même faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du jeu et du montage, et du fait que on caricature un peu certaines positions à certains moments. Celles des enquêteurs, nous sommes des narrateurs-enquêteurs dans le film. Et moi, j'incarne plutôt un point de vue, on va dire, communiste, gaulliste, voilà, comme ça. Donc, assez séduit par les initiatives prises par le gouvernement de Rafael Correa ces 10 dernières années, tandis que Nina, elle pourrait le dire elle-même, mais elle garde plutôt un point de vue, on va dire, anarchiste, libertaire, en tout cas donc plus réservé sur cette question de l'homme providentiel. Voilà, c'est des choses... Mais... Après, il y a des discussions que vous n'avez pas vues dans le film, parce qu'on n'a pas tout mis dans le film. Donc les choses étaient peut-être un peu plus compliquées que ça, un peu moins simplistes, on va dire. Mais pour les besoins du récit, on a préféré garder ces deux personnages-là dans le film.
On a récupéré l'éducation, la santé, l'éducation supérieure. On a une baisse de plus de 20 points dans la pauvreté.
La sensation qu'on a eue, nous, en arrivant, c'est que le changement politique a été très, très fort à une échelle très courte. C'est-à-dire qu'on a eu des gens propulsés
de façon très rapide dans un changement de niveau de vie, dans un changement de classe, avec les inégalités qui se réduisent, et puis le pays qui se transforme sous leurs yeux, alors avec énormément encore à faire, avec toujours une dépendance aux exportations des matières premières. Mais l'idée, nous, c'est pas de se placer en juge de cette expérience en disant « bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien », on n'est pas là pour attribuer des points, mais vraiment chercher en quoi ce qui s'est passé là-bas peut nous questionner ici. Et je pense que un des points importants, c'est de savoir qu'avec un changement politique, la transformation sociale peut arriver très rapidement.
Rien comme ça, je dois mettre une cravate.
Ce que vous montrez aussi, c'est quand même une espèce d'omniprésident qui se retrouve à danser avec des gens dans la rue, qui se retrouve à la télévision. Alors, effectivement, en France, on parle de la mainmise d'un homme sur les médias. Lui, il s'explique autrement, en expliquant que par le passé, les médias étaient quand même détenus par des banques. Voilà. En tout cas, ce que vous montrez, là encore, vous laissez le choix au spectateur de trouver sa voie, mais vous montrez quand même quelqu'un d'extrêmement présent médiatiquement et aussi dans la rue.
Alors, on peut avoir cette impression d'une omniprésence médiatique, mais en réalité, les chaînes privées qui sont plutôt hostiles au gouvernement de Rafael Correa ne sont pas. Enfin, il n'est pas présent dans les chaînes privées. Ou quand il est présent dans les chaînes privées, c'est plutôt pour être critiqué. Là aussi, il faut se méfier d'un certain europocentrisme. On regarde ça de notre point de vue en se disant « Ah oui, il fait une émission de 4 heures ou de 5 heures tous les samedis matins, comme Hugo Chavez le faisait aussi au Venezuela. Ça s'appelait Allo Presidente, et là, ça s'appelle Enlace Ciudadano. Lien avec les citoyens, je sais pas comment on appelle ça, on dit en espagnol. C'est sur une chaîne publique. Et quand bien même ce serait sur toutes les chaînes de télé, ça n'a rien d'extraordinaire par rapport à ce qui peut se passer ici en France, où on a le même journal télévisé qui véhicule la même vision du monde sur toutes les chaînes de télévision. Il y a une espèce d'information unique. Et ça, c'est tous les jours. Il y a eu un débat sur l'affiche, il y a eu deux affiches, il y avait une autre affiche qu'avait fait un autre dessinateur où Correa était plutôt présenté comme un Don Quichotte qui s'attaquait au moulin avant, qui était ceux du FMI, du Fonds Monétaire International, et qui n'a pas fait l'unanimité, mais que je trouvais pas inintéressant non plus. Voilà. Le personnage de Don Quichotte me semble bien représenter Correa.
Voilà, vous écoutiez Pierre Carle et Nina Faure qui sont aux commandes de ce documentaire. On revient de loin sur le président Correa, président équatorien, film qu'on vous recommande, film qui a été financé avec la participation d'internautes. Voilà une raison de plus de courir en salle.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et bien après réparer le système politique, on va passer à réparer les vivants de Catel qui les verraient. Un matin, le jeune Simon part surfer avec des amis. En rentrant, c'est le drame. Ils sont victimes d'un accident de voiture. Transporté en état de mort cérébrale à l'hôpital, le corps de Simon est alors au centre de nouveaux enjeux. Comment faire comprendre aux parents de la victime que malgré son cœur qui bat, il n'est plus en vie? Comment les accompagner et leur permettre d'opter pour le don d'organes afin de peut-être sauver d'autres vies? Dans le même temps, on suit une femme d'une cinquantaine d'années, loin de là, qui est en attente d'une greffe qui pourrait justement la sauver. Alors le film se déroule sur 24 heures et il suit le cœur de Simon, qui est en fait le véritable personnage principal du film.
Votre fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe.
Vous savez ce que je vais vous dire? Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort.
Claire, c'est votre décision. Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez.
« Alors, il est question du don d'organes, hein, tel que le sujet n'a jamais été abordé, c'est-à-dire de façon extrêmement minutieuse, à travers toutes les étapes, sans en oublier aucune, de la mort à la greffe sur un nouveau corps. Katel Kilevere, qu'on avait connu avec le remarqué Suzanne, a réuni sur ce projet l'un des castings les plus impressionnants quand même qu'on ait pu voir ces dernières années. Tahar Rahim, Bouli Lanners, Emmanuel Seigné, Kulchen, Arne Enderval, Dominique Blanc, que l'on entendait à l'instant. Et la réalisatrice a le talent de parvenir à faire exister chacun de ces personnages qui n'ont parfois qu'une scène, hein, à l'écran, à l'aide d'infimes détails qui pourtant construisent de réelles identités à l'écran. Alors comme le dit Katel Kilevere elle-même, ce n'est pas un film choral, hein, c'est une chanson de gestes, c'est-à-dire que l'histoire passe de personnage en personnage, créant une sorte de relais narratif. Comme le nom l'indique, réparer les vivants s'attache surtout aux vivants. Et c'est ça qui est très intéressant dans le film. C'est évidemment un plaidoyer en faveur de la greffe d'organes, soutenu par une rigueur documentaire. On devine les très nombreuses recherches en amont, qui feraient parfois presque passer le film d'ailleurs pour une publicité pour le don d'organes. On est loin ici de la critique du corps médical ou du monde hospitalier qu'on pouvait trouver par exemple dans Hippocrate. Ici, l'hôpital et son personnel sont dépeints de façon presque idyllique. Réparer les vivants est un drame, un vrai drame, mais un drame réussi. C'est un cinéma exigeant, faussement classique, très maîtrisé. Le sujet est extrêmement dur, mais le traitement est sobre et l'ensemble reste vraiment bouleversant, d'autant qu'en plus, tout ce que l'on y apprend est franchement passionnant. J'ai envie de dire, c'est un coup de cœur.
Bravo. En tout cas, c'est vrai que c'est un drame, ça, il y a à n'en pas douter, mais avec une formidable introduction. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié.
Toute la première séquence est incroyable. Oui. Ça, les 10 premières minutes du film sont assez incroyables. Oui.
Parce que finalement, entrer dans un film, c'est toujours quelque chose, c'est un enjeu. Il y a une espèce de frontière comme ça entre la salle du spectateur et puis ce qu'on va voir, ce qu'on s'apprête à voir. Et là, je trouve que c'est très, très bien fait, assez mystérieux finalement. Bon, après, on comprend, hein, ce qui va se passer, mais tout de même, je trouve qu'il y a vraiment un vrai don de réalisation là-dedans.
En effet, voilà. Oui. À voir donc.
Réparer les vivants, ça sort le 1er novembre, j'imagine, comme beaucoup des films dont nous avons parlé aujourd'hui, sauf Willy Premier.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
À Côte-Bec, j'irai. Avoir un appartement, j'en aurai un. Un scooter, j'en aurai un. Des copains, j'en aurai. Et vous en merde.
Ainsi parle Willy à ses parents. Willy n'est pas un ado, hein, non, il a 50 ans. Mais rien ne va plus, son frère jumeau est mort et tout est dépeuplé. C'est la déprime avec les chips dans le lit et la télé à l'horizon. Pour les parents, c'est trop et ils emploient de suite les gros mots.
Willy, avec ta mère, on va pas pouvoir te garder.
Mais que vas-y ?
On va te mettre dans un centre spécialisé.
Vite ma boule, moi je vais pas aller chez les Mongols.
Du coup, Willy eh bien, se fait la malle à quelques kilomètres de là, à Côte-Bec, riante bourgade avec son bar, sa boulangerie et tiens, son supermarché où il pourrait se faire embaucher, Willy, surtout avec sa maîtrise de l'anglais.
Vous avez déjà travaillé dans la grande distribution ?
Non.
Vous connaissez le principe du discount ?
Non.
Est-ce que vous parlez anglais ?
Oui.
I'd like a glass of wine.
On l'entend, on pourrait se croire dans un épisode de Groland ou dans une séquence d'un film de Delépine et Kervern, mais rien de tout ça, très vite on comprend que c'est plus sérieux, un projet de cinéma, l'histoire d'une libération, d'une indépendance et d'un nouveau souffle. On l'a entendu, Willy a peu de projets, un appart, un scooter et des copains, mais vu le bonhomme, eh bien rien n'est simple et heureusement, eh bien sur sa route, il n'est pas seul, il y a sa curatrice qui peut lui permettre de s'assumer, lui qui est décrit par ses potes comme un gros lard. Il y a sûrement quelque chose de l'ordre du voyeurisme à regarder évoluer Willy, personnage atypique, renfrogné, tête à claque, aux pulsions sexuelles et aux discours homophobes. Mais très vite, le spectateur se laisse convaincre qu'il est entre de bonnes mains, pas moins de 4 réalisateurs pour un film d'1h20. Il fallait le faire, quand même, se mettre à 4 pour raccourcir un film. Et ils ont travaillé avec un ex-illettré, un certain Daniel Vanet, qui avait déjà joué dans un précédent court-métrage de la même équipe. Ils se sont inspirés de sa vie et Daniel s'est mis donc dans la peau d'un autre. Alors il y a un souffle documentaire dans Willy Premier, mais il s'agit avant tout d'une fiction qui obéit à un découpage en séquence, comme des buts à atteindre pour celui qu'on aurait condamné à l'entame du film comme un inadapté social. Du coup, le film gagne en rythme et obéit même à une forme de suspense. La musique, qu'elle soit additionnelle ou originale, joue pleinement son rôle, on nous agrémente de quelques ralentis, presque, j'ai envie de dire, à la Xavier Dolan, et le temps passe plutôt vite. Bon, faut dire que ça dure 1h20. Alors, issu de la première promotion de l'école de cinéma de la cité de Luc Besson, les 4 réalisateurs sont soutenus bizarrement par l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion. Et du coup, mettre cinéma indépendant et école Luc Besson dans la même phrase, enfin, c'est assez étonnant. Mais voilà, il se trouve que ces 4 réalisateurs eh bien, ont fait un plutôt bon film. Donc ça s'appelle Willy Premier. Et bah, on va se quitter en l'écoutant.
ici avec la crise, tout le monde se tire. Tout le monde se tire et toi t'arrives.
C'est bien pour toi que t'aies ton indépendance.
Tu vas y arriver ?
Parce que j'ai toujours dit qu'à Colbeck, j'irais. Avoir un appartement, j'en aurais un. Avoir un scooter, j'en aurais un. Des copains, j'en aurais. Et ils vous emmerdent. Voilà.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors si aujourd'hui nous avons entendu bien finalement beaucoup de monde, à chaque fois deux réalisateurs, la semaine prochaine il n'y en aura aucun. Et voilà. Nous parlerons eh bien des films qui sont sortis le 26 octobre, sans doute.
À la semaine prochaine.